Cléa Robert.
Bonsoir. L'équipe de Suisse de football peut composter sa qualification pour la Coupe du Monde ce soir. Elle reçoit la Suède à 20h45 au stade de Genève. Pour cela, il faudra battre les Scandinaves et espérer que dans le même temps, le Kosovo ne gagne pas en Slovénie. Un nul pourrait suffire à faire le bonheur des Helvètes, à condition aussi que les Kosovars soient battus. De nombreux fans auront ainsi les yeux rivés sur les deux matchs, mais pas forcément le sélectionneur suisse Murat Yakin.
L'important, c'est que nous nous concentrions sur notre jeu. L'adversaire a changé son coach. Nous savons aussi quels joueurs seront présents. Ce sera compliqué. Évidemment, je vais recevoir des informations, peut-être à la mi-temps, même à la demi-heure. Mais nous allons nous concentrer sur notre jeu, sur notre résultat, avant de prendre connaissance de ce qui se passe entre la Slovénie et le Kosovo.
Le résultat du match Slovénie contre le Kosovo.
L'équipe de Suisse avait battu la Suède 1-0 il y a un mois, mais la rencontre de ce soir devrait bien être différente. Les jaunes et bleus ont changé d'entraîneur et plusieurs joueurs ont effectué leur retour en sélection. L'alignement de la Suède risque d'être une inconnue pour tout le monde jusqu'au coup d'envoi, mais il y a une certitude, le public sera prêt à pousser son équipe. 27 000 personnes seront présentes ce soir à Genève et pour la statistique, jamais la Suisse n'a été battue dans la cité de Calvin lorsqu'elle est disputée. Un match de qualification pour un euro ou un mondial. La Romandie réussit bien à la Nati, comme le confirme Murat Yakin.
Also nicht nur das Stadion, also ich denke auch die ganze Vorbereitung jetzt hier in Romandie.
Ce n'est pas seulement le stade, c'est toute la préparation en amont. L'hôtel, le stade, le terrain d'entraînement, les enfants aussi qui sont très nombreux dans les tribunes. C'est quelque chose de très particulier de jouer ici. Cette statistique est en effet incroyable, mais nous devons nous concentrer sur notre prochain match. Nous avons beaucoup de confiance, nous avons beaucoup travaillé cet été, cet automne. C'est important, la statistique évidemment c'est une chose et nous avons hâte d'avoir une excellente ambiance en Romandie qui nous a toujours soutenus.
In Spiel reingehen und ja, wir freuen uns auf eine tolle Ambiance hier in der Romandie, die uns immer großzügig und sehr laut unterstützt hat.
Un sujet préparé par notre envoyé spécial auprès de l'équipe de Suisse de football Thierry Nicolet. Et le reste de l'actualité sportive, c'est dans le point sport, juste après ce journal. Retour dans la région, une série de vidéos pour découvrir un village autrement. Les panneaux explicatifs bordant la promenade du temps passé ont été restaurés à la Brévine. Ils ont été inaugurés ce matin par la société d'embellissement et de développement du village. Les textes informatifs n'ont pas changé, mais un QR code fait son apparition sur chacun des panneaux. Il permet de visionner une vidéo mêlant archives et prise de vue actuelle. Claudine Paris, présidente de la société d'embellissement, nous parle de sa vidéo préférée.
En fait, c'est le premier panneau qui présente la Brévine telle qu'elle est. Là, vous avez des images d'hiver qui sont absolument fabuleuses, qui ont été faites par le caméraman avec des drones et qui sont subliminales.
Bonjour et bienvenue. Suivez-nous sur le parcours de la promenade du temps passé.
En fait, tout est beau partout. Mais en même temps, sur ce clip, vous avez l'histoire du moins 40. Vous retrouvez un personnage qui est Marcel Blondeau.
Le 12 janvier 1987, le thermomètre indique moins 41,8 degrés. C'est le record absolu et officiel de température de la Brévine.
Vous revoyez également le temple qui a été illuminé en rouge ou en bleu quand il fait froid, rouge quand il fait chaud. Et puis vous avez également la ville, la région de Grenoble qui, elle, avait passé plus 41,5 degrés. Et c'est vrai qu'il y a toujours un contact qui est maintenu entre ces deux régions. Donc voilà, mais les 18 clips ont quelque chose.
Un sujet à retrouver en intégralité sur rtn.ch. Le musée Jean-Jacques Rousseau à Mottier se vide de ses collections. Elles sont transportées aujourd'hui à Espaceval à Couvet. Ce déménagement est provisoire. Il s'agit de les mettre à l'abri le temps pour l'ECAP, propriétaire des murs, de réaménager une partie de la bâtisse en chambre d'hôtes. Les collections devraient réintégrer le musée d'ici 18 mois, soit à l'été 2027, mais dans une nouvelle configuration. Nicolas Fiquet, conservateur du musée Jean-Jacques Rousseau.
Le musée va évoluer avec
ces travaux. Notre bureau qui est au rez-de-chaussée du bâtiment va disparaître au profit des chambres d'hôtes, mais le musée pourra s'étendre sur de nouveaux espaces au premier étage où il se trouve déjà, qui serviront aussi bien d'espaces d'exposition pour les œuvres que de lieux privés qui serviront d'espaces de stockage, de bureaux, de bibliothèques. Alors on perd un espace, mais on en gagne d'autres. Au fond, on est gagnant dans les espaces que le musée acquérera à l'issue des travaux. Ce sera l'occasion également de repenser la manière de présenter les œuvres au musée, de penser à une nouvelle muséographie et comment on peut renouveler le regard autour de nos collections.
La fermeture du musée permettra à Nicolas Fiquet et à sa collègue Noémie Duperron de revoir la muséographie. D'autres aspects de ce déménagement sont à découvrir sur rtn.ch. En Suisse, l'entrée en vigueur des nouvelles taxes douanières américaines se précise. La Maison-Blanche a confirmé vendredi son intention d'abaisser de 39% à 15% les tarifs douaniers pour la Suisse. Le ministre de l'Économie, Guy Parmelin, estime que l'entrée en vigueur pourrait intervenir dans 10 à 12 jours. Martine Pfister s'inquiète de la pénurie de munitions et d'équipements. Le conseiller fédéral en charge de l'armée a tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui lors de l'Assemblée du Centre. Face à une situation géopolitique mise sous pression, la montée de l'autoritarisme et les violences militaires qui s'intensifient, Martine Pfister souhaite un renforcement de l'armée en Suisse. Et dans le reste de l'actualité mondiale, la tempête Claudia fait un mort au Portugal. Alors que des vents violents balayent la région de l'Algarve, au moins une personne est décédée aujourd'hui dans la ville d'Albufeira. Il s'agit d'une femme britannique de 85 ans selon les autorités portugaises. Une vingtaine de personnes ont encore été blessées. La protection civile portugaise fait état de près de 3300 incidents dus à la tempête à travers le pays. Il est temps maintenant de passer au sport avec Marcel Neuenschwander. Bonsoir.
Bonsoir Cléa.
Et Marcel, Michaela Schifrin a encore frappé.
Eh oui, Michaela Schifrin est une fois de plus hors de portée. Et c'est encore plus vrai d'ailleurs lors du slalom spécial de Lévi. L'Américaine s'est imposée pour la 9e fois dans la station Lapone aujourd'hui en Coupe du Monde de ski alpin. Elle a signé le meilleur temps des deux manches, s'imposant avec 1,66 d'avance sur l'Albanaise Lara Colturi. Troisième, l'Allemande Emma Eicher a concédé plus de 2,5 secondes. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener est 8e. Si Mélanie Meillard termine 22e, Camille Rast, elle, se classe 15e. Un résultat peu satisfaisant pour la championne du monde.
Ouais, c'est clair, pas forcément la course rêvée, mais après, quand j'arrive à Lévis, je sais toujours que c'est un peu un 50-50. Si j'arrive à m'en sortir du plat, je fais une bonne course. Et là, aujourd'hui, c'était pas trop le cas. Donc, le plat, pour moi, ça reste toujours un gros challenge. Lévis, c'est super plat. Et ce matin, il n'y avait vraiment pas du tout de vitesse aussi. Et ça me complique un peu les choses. Et puis, c'est pas une excuse, mais j'étais pas non plus très à l'aise au niveau de la confiance. J'ai quand même eu beaucoup de douleurs à la hanche depuis Solden. Et du coup, c'est pas une excuse, mais c'est pas facile de trouver les clés pour se libérer à 100% sur une piste où c'est autant serré.
Porteuse du dossard 64, Amélie Klopfenstein s'est hissée, elle, au 36e rang de la première manche. La Neuve-Villoise était la 5e Suissesse classée. Il lui a manqué quelques 4 dixièmes pour se qualifier pour le second parcours. Demain à Lévis, place au premier slalom spécial masculin de l'hiver. Un moment toujours particulier pour les skieurs, comme l'explique Daniel.
C'est un endroit que j'aime bien. Là, c'est sûr que le plat du haut, il est peut-être un petit peu long. C'est une ambiance assez sympa pour lancer la saison. Et puis, c'est vraiment une belle piste.
Des propos recueillis par nos confrères de Ski Actu. Yannick Sinner s'est hissé pour la troisième année consécutive en finale du Master ATP à Turin devant son public. Le joueur de tennis italien a battu en demi-finale l'Australien Alex de Minaur en 2-7, 7-5, 6-2. Son adversaire sera le vainqueur de la seconde demi-finale qui mettra aux prises ce soir l'Espagnol Carlos Alcaraz au Canadien Félix Auger-Aliassime. Les Suissesses sont déjà en difficulté après le premier simple de la Billie Jean King Cup face à la Slovaquie. La tessisoise Suzanne Bandenki s'est inclinée 7-5, 6-2 face à Victoria Rundakova. En tir, les Suisses ont brillé lors de l'avant-dernière journée des championnats du monde. Au Caire, ils ont conquis 2 médailles d'or, certes dans des disciplines qui ne figurent pas au programme des JO. Adrian Schaub a accueilli le titre au pistolet standard à 25 mètres, alors que le trio composé de Pascal Bachmann, Gilles Dufaux et Sandro Greuter s'impose dans le match aux 3 positions à la carabine à 300 mètres. Au plan régional, le FC Bosna-Neuchâtel poursuit son parcours en vue d'une qualification pour la Coupe de Suisse 2026-2027 de football. Le pensionnaire des Genevais-sur-Cofrane en a fait passer le cap du deuxième tour éliminatoire aujourd'hui à domicile en battant Gain 3-0. Le FC Bosna devra toutefois encore franchir un troisième tour en juin prochain avant de pouvoir éventuellement entrer dans le tableau principal de la compétition. Et puis en Ligue B féminine de volleyball, la seconde garniture du NUC a écrasé Belinzone en 3-7, 25-18, 25-22, 25-2. Elle est quatrième du classement. Le Street Hockey Club La Chaux-de-Fonds, pour sa part, a fêté un succès cet après-midi contre les Orgenberg Hammers 6-5. Cette victoire permet aux Chaux-de-Fonniers de revenir à la hauteur de leur adversaire au classement, à la troisième place, avec le même nombre de points, mais 2 matchs en plus. On terminera ce bulletin par la météo. Le temps restera couvert durant la nuit, avec au programme quelques averses. Il en ira de même demain matin. Des pluies qui devraient devenir même plus fréquentes. Les températures prévues sur le littoral varieront entre 6 et 10 degrés. Elles seront de 4 à 9 degrés à 1000 mètres d'altitude et dans les vallons. Et en attendant, bonne soirée à tous.